Bonsoir. Prévu mercredi 9 avril à Doha au Qatar, les débuts des discussions directes entre le gouvernement congolais et les rebelles de la FCM23 a été reporté à une date ultérieure. Selon l'agence de presse anglaise Reuters, les deux camps évoquent des raisons organisationnelles. Cependant, d'autres sources confirment que les deux délégations se trouvent bien à Doha. La délégation de la FCM23, conduite par le coordonnateur adjoint Bertrand Bissima, aurait posé plusieurs préalables qu'elle présente comme des mesures de confiance pour entamer des négociations directes avec le gouvernement. De son côté, le gouvernement congolais exigerait un cessez-le-feu sans condition, notamment le retrait des rebelles des villes de Bukavu et Goma. Nos sources évoquent des positions plutôt transmises à la médiation qatari qui annonce des discussions difficiles dont l'issue dépendra de la volonté des deux parties à trouver un terrain d'entente. Quel est au cœur de cette situation? Le Qatar serait-il en mesure de résoudre cette crise? Nous en parlons ce soir avec Achille Kiapanga. Il est avocat, analyste indépendant et expert dans les domaines de la sécurité. Maître Achille Kiapanga, bonsoir.
Merci beaucoup, madame. Je vous salue. Je salue tous les auditeurs de notre grande chaîne Radio Capi. Je pense que ils auront l'occasion de nous suivre, d'écouter un peu nos analyses par rapport à la question.
Frédéric Amagne aussi est avec nous dans ce débat. Il est chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'université de Lubumbashi. Il est expert en questions de sécurité, défense et maintien de la paix de l'Institut Thalès d'Afrique, basé à Dakar au Sénégal. Frédéric Amagne, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir à tous.
Timothée Tchaombo Soucha, également avec nous dans cette émission, spécialiste en politique internationale. Il est coordonnateur et chercheur indépendant à Kiel Afrique, un bureau d'études géostratégiques basé en Belgique. Il est aussi expert en stratégie et sécurité internationale, médiateur en coopération, prévention et résolution des conflits internationaux. Timothée Tchaombo, bonsoir.
Bonsoir madame Kéline Côté, bonsoir à tous les auditeurs des Radio Kapi.
Avenue Nord Kivu, vous nous suivez sur la 92.0 et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net, sur BSTV, canal 867. Vous pouvez également nous suivre en direct sur la chaîne YouTube, le compte Facebook et X de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiokapi.net.
Je l'ai dit dans le sommaire, annoncé comme un tournant dans le processus de paix dans l'est de la RDC, les négociations directes entre le gouvernement congolais et les rebelles de la FCM23, prévues hier mercredi à Doha, sont reportées. Selon l'agence de presse Reuters, les deux camps évoquent des raisons d'organisation. D'autres sources mentionnent des divergences sur les conditions de cessez-le-feu, notamment ce qui complique les perspectives des dialogues entre les deux délégations qui sont présentes au Qatar. Martial Papi Moukeba pour le reportage.
Présenté comme une avancée majeure dans la recherche d'une sortie de crise à l'est de la RDC, la rencontre entre les gouvernements congolais et les rebelles de l'AFC M23 à Doha a finalement été reportée selon l'agence Reuters. Les deux camps ont précisé qu'aucune invitation officielle n'avait été envoyée, un responsable congolais reconnaissant même, je cite, un problème d'organisation. Cependant, d'autres sources confirment que les deux délégations se trouvent à Doha. La délégation de l'AFC M23 conduite par le coordonnateur adjoint Bertrand Bissimoua, accompagné du colonel Imane Nzenze, chargé des renseignements et des opérations militaires, aurait même posé plusieurs préalables qu'elle présente comme des mesures de confiance pour entamer des négociations directes avec les gouvernements. De son côté, les gouvernements exigeraient un cessez-le-feu sans condition, notamment les retraits des rebelles des villes de Bukavu et Goma. Nos sources évoquent des positions transmises à la médiation qatari qui annonce des discussions difficiles dont l'issue dépendra de la volonté des deux parties à trouver intérêt d'attente. Béni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Merci Martial Papimoukeba pour tous ces détails. Maître Achille Kepanga, je rappelle que vous êtes avocat, analyste indépendant et expert dans les domaines de la sécurité. Tout le monde attendait les débuts des discussions hier à Doha au Qatar entre la délégation du gouvernement congolais et celle du M23, de l'AFC M23. À la grande surprise de beaucoup de Congolais quand même, ces discussions ont été reportées à une date ultérieure parce que chaque camp exigeait ou avait à présenter des préalables avant le début de ces discussions. Vous attendiez à un report possible ou à un début des négociations?
Bon, en fait, merci beaucoup madame. Depuis que cette question a été traitée, que ce soit à Nairobi, à Luanda et partout, ce sont toujours des surprises désagréables auxquelles nous assistons. On pense que cette fois-ci, ça y est, on attaque Kagame, il va arriver, on va en finir, ça change. Du coup, on est peut-être à Doha, on est là où on peut amener les gens. Mais moi, avant d'aller très loin, j'avais une question. Vous savez très bien qu'on a toujours dit que c'est la nature du litige qui définit la compétence du juge. Mm-hmm. En d'autres termes, la compétence est l'attribution. Je voulais dire quoi en évoquant ça, madame. Quel est ce litige qui oppose le M23 à notre gouvernement pour que ce soit Qatar le juge? On n'a pas pu faire ça en Nairobi, on n'a pas pu faire ça en Angola. Voilà les conflits congolais et maintenant transplantés jusqu'au niveau du Qatar. Mais il faut se poser une question, c'est quelle sorte de conflit qui doit être jugé au Qatar? Est-ce que c'est vraiment la question des Congolais qu'ils sont en train de voir souffrir ici dans des eaux au niveau de Tchangou, au niveau de la rivière Ndjili, question de voir mourir à Butembo, à Beni, à Onituri, parti. C'est vraiment cette question qui amène les acteurs politiques à Qatar. Qatar, là, quand on parle de Qatar, on voit quoi? Il faut se comprendre le juge. Qatar est compétent à quoi aujourd'hui? Quand on doit parler de Qatar, on sous-attend quoi? C'est une zone économique, là où il y a du boom, là où tous les grands du monde font leurs affaires. Je pense que ce qui amène nos acteurs politiques au Qatar, ce n'est pas vraiment la question de cette guerre, non. Pour moi, je suis en train de comprendre qu'il y a maintenant un conflit d'intérêts à un haut niveau, au niveau des individus, au niveau des États qui exploitent la RDC, et maintenant pour apaiser, pour qu'ils aient un compromis entre eux, il faut amener peut-être ça devant les gens qui achètent tout l'or qui vient de la RDC, puisque tout l'or qu'on trouve parti par là n'a que pour marché spécial Qatar. Alors, peut-être Qatar a dit que non, je vois que ces gens, c'est moi qui achète l'or, que ce soit les Rwandais, que ce soit la RDC, que ces gens viennent, je vais terminer leurs problèmes. Donc pour moi, le juge qui a été choisi, donc le médiateur qui est le Qatar, quand je suis en train de voir les réalités des questions au Congo, et je compare ça au Qatar, à Doha, je me dis que, en tout cas, le juge n'est pas approprié au litige. En tout cas, le juge n'est pas approprié.
Mais il a quand même réussi à réunir Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Doha, au Qatar.
Oui, madame, c'est ce que je dis. Donc, quand ils se réunissent là, quand ils réunissent ces deux hommes-là, voilà pourquoi je disais que nous devrons maintenant comprendre la nature du litige. Parce que, qu'est-ce qui ne va pas réellement entre le M23 et d'autres gouvernements? Parce que si c'était vraiment une question qui concerne le peuple, parce que c'est le peuple qui est victime de tout ce conflit-là. Soyez-en d'accord avec moi, que ce soit à Goma, à Bukavu, partout, c'est le peuple qui meurt. Vous dites que vous êtes en train de faire quelque chose pour le peuple. Malheureusement, le peuple pour lequel vous êtes en train de faire quelque chose, c'est la première victime. Comment quelqu'un pour qui vous êtes en train de faire quelque chose de bon a dévié aussi ou bien automatiquement la victime?
Est-ce que vous voulez nous dire par là, Maître Achille Kepanga, qu'il ne fallait pas trop compter sur le Qatar, que c'était déjà, on pouvait déjà imaginer que ça serait un échec?
Donc pour moi, on a déjà emballé les Congolais dans une affaire qui dépasse leur attendement. Voilà pourquoi on les empale, tantôt on les amène à Luanda, tantôt on les amène, je ne sais pas, à Nairobi, tantôt on les amène par-ci, par-là. Et curieusement, madame, si vous êtes d'accord avec moi, vous avez suivi l'Union africaine, dernièrement, quand elle a évoqué que c'est le président togolais qui allait succéder au président angolais. Personne n'en parle plus. Bien avant, c'était l'ancien président nigérien et les autres qui devaient se retrouver ensemble avec l'ancienne présidente de Centrafrique qui devait aussi jouer la médiation. On n'en parle plus. Donc, je comprends maintenant que ceux qui dirigent le monde sont maintenant au-dessus des Africains, au-dessus des lois africaines. Ils veulent maintenant décider. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est la paix. Si, au niveau des Doha, on va nous amener la paix, on dira tant mieux. Mais vous avez évoqué un aspect très important en disant que les divergences au niveau des conditions pour que, puisqu'on puisse démarrer les échanges. C'est là où c'est le problème. La RDC a toujours dit que non, cette fois-ci, il n'y a pas peut-être mixage, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Ça a toujours été. Mais il y a même des lois qui étaient votées au niveau de l'Assemblée nationale pour dire que non, on ne peut plus mixer notre armée ou bien brasser notre armée. Il y a aussi les amis de l'autre côté qui ont déjà fait une sorte de gros dos après avoir conquis Goma et Bukavu et ailleurs là-bas. Bon, et ils disent aussi non, nous aussi nous sommes déjà là. Alors, chacun veut maintenant tirer la couverture de son côté. Mais moi je pense que ce qui est important aujourd'hui c'est quoi? À Qatar, on peut résoudre des questions liées aux intérêts des grandes puissances du monde, mais ce qui est très important, c'est que la CEGO qui avait déjà tracé un schéma, peut-être les fameuses consultations qui viennent d'avoir lieu dernièrement, ce sont les données-là qui peuvent être mises en commun pour qu'on puisse réfléchir à Congolais et trouver des solutions à nos problèmes.
Frédéric Amani, vous êtes chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'université de Lubumbashi. Vous êtes expert en questions de sécurité, défense et maintien de la paix de l'Institut Thalès d'Afrique basé à Dakar au Sénégal. Ce report, selon vous, est-ce un signe avant-coureur d'une impasse plus profonde?
Eh bien, merci beaucoup de la parole et de m'avoir associé à ce débat, Madame Kelly. Et je ne pense pas que ce soit un échec ou... Mais tout ce qu'on peut dire par rapport à ces reports, c'est que c'est au fait une stratégie des négociations que les acteurs ou les belligérants mettent en place pour monter des surenchères afin de faire passer leur point de vue. Il est vrai que les préalables de part et d'autre sont énormes et que chaque partie jusque-là campe encore sur sa position. Ça, c'est d'un 1. Parce que toutes les délégations étaient ou sont à Doha, mais il fallait, n'est-ce pas, qu'il y ait d'abord un compromis avant d'entrer, si vous voulez bien, dans la salle ou, n'est-ce pas, la rencontre directe. Et il faut aussi reconnaître que les négociations qui se tiennent à Doha, c'est vrai, nous saluons les efforts diplomatiques que les partenaires de la RDC ou, n'est-ce pas, du Rwanda peuvent apporter pourvu que la paix et la sécurité reviennent à l'est de la RDC. Mais je suis tenté de dire et de croire que Doha, c'est beaucoup plus un business que sécurité ou que paix, et surtout par rapport aux intérêts et de Doha et de Kinshasa ou de Kigali. Il faut préciser un aspect important. Il y avait d'abord un conflit entre la RDC et le Rwanda qui conduisait, n'est-ce pas, au pourparler de Luanda. Et quelque temps, il y avait aussi le pourparler de Nairobi entre la RDC et les groupes armés. Mais la rencontre entre le président Félix et le président Paul Kagame a conduit à la rencontre entre les gouvernements congolais et les M23. Et en quelque sorte, on est tenté de montrer que le conflit n'est plus un conflit entre États, mais c'est un conflit entre le gouvernement et une faction de la rébellion, dont les M23 AFC. Et que, de ce point de vue-là, je pense que on est tenté d'aller ou d'aboutir à une négociation ou à une approche politique ou diplomatique pour résoudre cette crise, parce que l'approche militaire n'a pas apporté des résultats escomptés, et que ce soit pour Kinshasa ou pour l'M23. Et des deux ou des trois, je pense qu'aujourd'hui, par rapport à ces reports, et surtout en lisant les recommandations ou les préalables, voilà, que ce soit du M23FC ou du gouvernement, je pense qu'il est grand temps, pour gagner le temps, de revenir à l'initiative de la CENCO-SCC pour éviter que les morts continuent, n'est-ce pas, à exister, que ce soit à l'Est ou ailleurs. Parce que je ne suis pas pessimiste, mais je crains que des résultats escomptés sortent des Doha, dans la mesure où, dès lors que chaque parti campe sur sa position, eh bien, on va aboutir à un fiasco. Pourtant, il y avait possibilité de donner du crédit à l'initiative CENCO-SCC, qui, de mon point de vue, est une initiative non seulement nationale, mais qui a aussi des ramifications régionales. Et je pense que si nous voulons que la paix et la sécurité reviennent à l'Est, on doit s'appuyer sur cette initiative et aussi penser l'initiative de l'Union africaine au travers les médiateurs qui ont été désignés. Voilà comment on peut analyser le fiasco ou le report des Doha qui, d'un point de vue, n'aboutira pas à des résultats escomptés malheureusement, et ça permet à ce que chaque parti continue à camper sur sa position. Mais entre-temps, ce sont les vies des Congolais qui sont décimées.
Alors, votre analyse est partagée aussi par Moïse Guy, qui nous suit depuis Butembo, au nord Kivu, qui pense que Doha ne nous apportera rien. Timothée Tchaombo-Soutcha, spécialiste en politique internationale, vous êtes coordonnateur et chercheur indépendant à Kiel Afrique, un bureau d'études géostratégiques basé en Belgique. Vous êtes aussi expert en stratégie et sécurité internationale, médiateur en coopération, prévention et résolution des conflits internationaux. Comment vous analysez cette situation?
Oui, Madame Mekeli, en 2-3 secondes, j'aimerais présenter toutes mes condoléances aux familles éplorées lors des pluies diluviennes qui se sont abattues sur Kinshasa. J'invite les autorités congolaises à analyser la question. Le réchauffement climatique va devoir faire disparaître la capitale de Kinshasa si on ne sait pas désengorger et créer d'autres villes au-delà des 150-200 kilomètres. Je m'arrête là pour répondre à votre question. C'est qu'il faut identifier les acteurs. Le conflit, en fait, les négociations qui se passent à Doha, d'abord le Qatar représente deux parties. Le Qatar lui-même, parce qu'il met énormément de fonds, non seulement dans l'aviation rwandaise, ils ont des coopérations au niveau de la modélisation de tous les aéroports au Rwanda et même des services de sécurité et de contrôle spatial, mais aussi l'argent qu'il y a en RDC, parce que le Qatar investit de la même manière dans l'aéronautique, dans les maritimes et dans le port en eau profonde, et puis la sécurité spatiale aussi. Hein, donc le même package de services est rendu de coopération avec le Rwanda, le Qatar investit, est en négociation avec Kinshasa aussi dans le même secteur. Donc voilà quelqu'un, Emir Altani, dont le budget annuel du Qatar 2025 s'avoisine 217,5 milliards de dollars, et lui-même sa fortune personnelle est estimée à environ 335 milliards de dollars. Ben, il va convoquer les deux clients pour leur dire: vous vous battez, mon argent, ça se passe comment? C'est ça la première question. J'ai dit que le Qatar représente deux intérêts, son intérêt personnel, mais aussi les intérêts occidentaux, notamment les Américains. N'oubliez pas que le Qatar est un acteur géostratégique du Proche-Orient qui joue un rôle important dans la négociation dans le conflit israélo-palestinien. Et pour la petite histoire, les Qataris, qu'on appelait dans l'ancien les Cananéens, hein, qui sont venus, c'est d'abord les sunnites qui sont irakiens et qui ont été bannis de l'Irak, et ils ont fondé leur tribu dans le désert, et ils ont transformé, avec la manne pétrolière, ils ont transformé le Qatar. Ce qui fait que les États-Unis utilisent le Qatar comme agent de renseignement, un acteur géostratégique dans la sous dans la région du Proche et Moyen-Orient. De sorte que le Qatar, un petit peu contre l'Iran, et donc les États-Unis qui a une base importante, là la Turquie a une base importante, le Qatar achète des armes en Israël, et même les Mirages, je veux dire, français, etc. Voilà un acteur important qui a des manques pétrolières et qui diversifie ses fonds d'investissement. Il soutient les équipes de football, c'est pas à moi de répéter le nom, vous le connaissez. Donc le Qatar représente ses propres intérêts, il a convoqué les deux chefs d'État pour leur dire « Vous vous battez, mais je risque de perdre mes fonds d'investissement ». Mais aussi, le Qatar représente les intérêts des Occidentaux face aux BRICS, c'est-à-dire les institutions de Bretton Woods contre les BRICS. Alors, je reviens à la grande question que vous avez posée. Il faut savoir que le conflit en République démocratique...
Les gens attendaient que les discussions commencent hier. Malheureusement, ça a été repoussé ou reporté à une date ultérieure parce que le M23, d'un côté, a présenté, a demandé ou a présenté son cahier des charges ou a posé des conditions avant la tenue de ces pour parler, c'est notamment le retrait du mandat d'arrêt contre certains de ses membres, la restitution des biens. De l'autre côté, le gouvernement qui demande le cessez-le-feu sans condition, notamment le retrait des rebelles de Goma et de Bukavu.
Oui, madame, mais là, le problème se situe à quel niveau? C'est que il y a énormément d'intérêts en conflit, des intérêts qui s'enchevêtrent. C'est un conflit à plusieurs étages. J'ai défini le premier étage, c'est les Occidentaux qui se battent avec la Chine et la Russie à travers Bruxelles, parce que la RDC est un coffre-fort. Deuxième étage d'intérêt, c'est le Qatar. J'ai défini le Qatar qui veut voir clair sur le fonds qu'il a investi à Kinshasa et à Kigali. Troisième étage de problème, c'est les rivalités sous-régionales. Vous avez l'Ouganda qui a de l'influence, qui étend sa zone d'influence en RDC à partir de Beni Butembo, Djougou vers là, et le Rwanda qui étend sa zone d'influence dans le deux Kivu, dans les deux Kivu oriental, et vous avez des rivalités locales. Les rivalités locales sont de type congolais, où vous avez Nanga congolais, Bissimwa congolais, Makenga congolais, qui ont des revendications locales. À partir de ce moment-là, vous avez énormément d'acteurs qui chacun a ses intérêts, et donc le M23 porte à la fois les intérêts de l'Ouganda, du Rwanda et du Kenya, et Kinshasa porte à la fois ses propres intérêts, mais aussi les intérêts de, notamment, des Américains, qui aujourd'hui, le président Tshisekedi, s'est jeté dans les bras des Américains. Donc, les questions qu'ils sont en train de, les conditions qu'ils posent sont difficilement acceptables à partir du moment où les préalables d'un dialogue ne sont pas encore mis en place. Parce que là, ils vont dans les questions de fonds, notamment la fin des poursuites, restitution des biens confisqués. Ça se discute lorsque le dialogue a commencé, proprement dit. Donc, il y a tellement d'acteurs qui ont tellement d'intérêts, il fait qu'il y a une cacophonie et les intérêts s'enchevêtrent et les négociations de Doha risquent d'aboutir à une souris si nous avançons de cette manière-là.
Achille Boukondo Kabangé, vous nous faites sur la page Facebook de Radio Capi. Plus le dialogue prend beaucoup de temps, plus l'ennemi prend du terrain. Nardo Bonheur, voilà. Dit ceci, la montée significative des efforts de Ouazalendo FRDC sur les champs de bataille a donné à notre gouvernement l'idée de croire que les parties occupées par le M23 seront libérées. La carte peut changer n'importe quand. Christian Batakengana Asani, si on n'arrive pas à trouver une solution, donc la population de l'Est qui sera toujours victime, car la série économique est la première guerre à Bukavu et à Goma. Maître Achille Kiapanga, quelles sont ou quelles pourraient être les conséquences directes ou immédiates du report de ces discussions sur la sécurité des populations civiles dans les zones en conflit?
Bon, au fait, la guerre n'a jamais été bonne. La guerre n'a jamais été bonne, elle n'a jamais produit un résultat pour l'intérêt du peuple. Tout ce qui se vit à l'Est, c'est puisque les gens semblent ne pas bien comprendre. Mais moi, je suis en train de dire que la RDC est en étau. Puisque à l'Ouest, quand vous voyez le Mobondo, on veut bien parler Est, mais il y a aussi des questions à l'Ouest avec le Mobondo. Des gens meurent aussi là-bas. On voit les cadavres des victimes innocentes de l'autre côté là. Donc on est comme si on est entre un étau là. Loin de là, il y a un aspect très important. La nature du conflit. Les amis, les co-débatteurs, on s'en plaît rentrer sur cette question-là. Mais moi, je voudrais qu'on comprenne bien cet état des choses. La nature du conflit. Parce que si tu ne sais pas de quoi tu souffres, tu ne sauras pas non plus bien te faire soigner. Nous devons savoir exactement la nature de ces conflits. C'est quoi? Si c'est réellement la question liée au fond, à l'économie, peut-être que Qatar va trouver des solutions. Mais si c'est une question qui est liée aux individus de nos politiciens, les divergences naissent du jour au lendemain. On en a vu encore dernièrement avec les consultations qui ont eu lieu. Vous sentez qu'au sein même de l'Union sacrée, il y a des fissures. Vous sentez peut-être le langage de Bahati Lukwebo, vous allez sentir le langage de Kamere, de tel autre. Vous sentez que rien ne colle. Et c'est là où il y a d'abord de grands problèmes. Parce que si on ne parvient pas à être unis autour d'abord de nous-mêmes, mais comment nous allons réussir à faire mieux à l'extérieur? Voilà pourquoi j'ai toujours interpellé les politiciens congolais. Et si même on est arrivé à ce niveau avec les amis de M23, c'est le même problème. Donc, vous voulez parler, vous voulez proposer quelque chose qui va permettre à ce que la cohésion soit là pour qu'on puisse mettre fin à cette guerre. Mais comme les gens pensaient qu'ils mangeront éternellement, on vous prend pour un ennemi. Tu es un adversaire, tu veux amener des logiques qui n'ont pas de sens. Et entre-temps, l'ennemi lui est en train d'étudier les stratégies. Et c'est là où il y a le problème. Moi, je pense que, je l'ai toujours répété, avant d'aller très loin, d'analyser Qatar, je ne sais pas, Angola, partout, analysons d'abord Congolais. Voilà pourquoi je dis que, maintenant, le format, après avoir défini la nature du litige, maintenant, on doit étudier maintenant le format de la solution, le format de l'équipe qui doit trouver des solutions. Je pensais que...
Et donc, vous pensez que la solution sera congolaise?
Il le faut obligatoirement. Je disais tantôt, parce que quand j'ai vu les consultations être ouvertes, je pensais que ce sera l'occasion pour qu'on puisse prendre toutes les démarches et toutes les propositions que nos amis de l'ESC et CENCO ont pu réunir et les ramener sur la table et dire maintenant à l'autorité qui était chargée de faire ces consultations, voilà les pistes de solutions. Malheureusement, quand on a parlé des fameuses consultations, on y a ajouté un appât négatif. Consultation pour la création, bien la formation des gouvernements d'union nationale. Donc, les gens sont venus dans la consultation puisqu'il y a un gouvernement qui se prépare. Et c'est là où ça a biaisé. Il faut dire consultation pour la paix en RDC. Là, tout le monde viendrait pour la paix. Mais quand vous dites déjà, c'est pour la formation des gouvernements. Donc, les gens n'y voient autre chose que le gouvernement. D'ailleurs, madame, il y a certaines personnes qui quittaient les consultations. Vous lui posez la question. Qu'est-ce que vous avez parlé avec le Premier ministre? Il va vous parler autre chose. Il ne va même pas vous parler de Mobondo, il ne va même pas vous parler de l'Est. Lui ne voit que les postes. Oh, il faut qu'il y ait un gouvernement de petite taille. Il faut qu'il y ait ceci. Il faut... C'est nous. C'est là où les hommes politiques congolais sont. Et aussi longtemps que nous serons uniquement dans la politique du pouvoir pour le pouvoir, on ne fera rien, madame.
Alors, la réalisation me signale que les auditeurs appellent sur notre standard. Ça sonne de l'autre côté de la baie vitrée. On va prendre quelques auditeurs qui sont déjà en ligne. Kinshasa, on prend l'auditeur de Kinshasa. Ça sera pour vous, Frédéric Abani.
Junior Bompongo depuis la ville province de Kinshasa. La médiation de Doha s'annonce comme un échec programmé, d'autant plus qu'il est piégé par la symétrie des exigences, comme pour tendre des préalables, car d'un côté, un État exigeant un cessez-le-feu immédiat, et de l'autre, des supplétifs rwandais dictant des conditions sous couvert des mesures de confiance. Dans ces conditions, l'impasse est structurelle et non conjoncturelle. D'où, le Qatar s'annonce comme étant un levier coercitif ni légitimité historique en Afrique centrale, et ne pourrait briser ses verrous diplomatiques. D'où, nous disons que qu'il ne s'agit point de dialogue possible car la paix devient une monnaie d'échange entre l'agresseur et sa victime. D'où il faut alors, bien entendu, revoir la stratégie militaire afin de dissuader ces supplétifs rwandais dans notre territoire national.
Frédéric Amani.
Merci, madame. Je salue bien la réaction de Monsieur Gignon et je le respecte bien. Alors, tout ce qu'on peut dire par rapport à ce qu'il a dit, c'est que je crois que chaque partie a ses négociations. Essaie, n'est-ce pas, de mettre ce qu'on appelle peut-être les alternatives non permanentes. C'est au fait une stratégie qui consiste à présenter beaucoup de cahiers de charges jusqu'à ce que on va toucher son point principal qu'il veut faire passer. Et ça, c'est de un. Dédé, je respecte bien. Je pense qu'on doit exclure pour le moment l'idée de faire la guerre parce qu'on on le dira jamais assez. La guerre a des conséquences collatérales, la guerre se prépare, la guerre, on connaît comment elle commence, mais on ne connaît pas comment elle se termine. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de privilégier les voies politiques ou les approches politiques et les approches diplomatiques. Et on ne le dira jamais assez. Une chose est de les privilégier, une autre est de savoir bien les utiliser pour que ça vous conduise à des résultats escomptés. Dans le cas contraire, vous risquez d'utiliser les approches politiques ou diplomatiques, mais qui, d'une manière ou d'une autre, ça peut se retourner contre vous. Ça, c'est d'aider. De trois, moi, je pense que c'est bien de négocier, c'est bien d'avoir des médiateurs, mais je crains qu'on soit en train d'éparpiller les efforts. Dès lors qu'il y a un cadre bien établi, c'est-à-dire SADC est assez au travers la fusion du processus de Luanda et de Nairobi, ça c'est des 1, on peut soit se rabattre à ces processus et initier ou intéresser aussi l'initiative de la CENCO-SCC. Aujourd'hui, Madame Kelly, excusez-moi de le dire à haute voix, en lisant l'initiative de la CENCO-SCC, je ne suis pas extraterrestre, mais je pense que cette initiative, si on y met de la volonté, ça peut aboutir à des résultats escomptés. Doha, je respecte bien l'émir du Qatar, mais je pense que Doha, c'est beaucoup plus business, comme mon aîné Timothée l'a dit, par rapport aux enjeux, par rapport aux partenaires, mais alors que l'initiative de la CENCO et de SADC et EAC peuvent nous apporter des résultats escomptés et avec la volonté aussi des acteurs nationaux.
On va prendre ce deuxième auditeur qui est en ligne. Il nous appelle depuis la ville de Bukavu, Sud Kivu. On va l'écouter puis on revient dans ce studio pour la suite de notre émission.
Amos Bissima, j'appelle à partir de la ville de Bukavu, province du Sud Kivu. Qatar est en train de capoter comme d'autres assises qui ont déjà eu lieu à cause du manque de volonté des parties engagées dans les conflits en RDC. Plus d'un Congolais ne cesse de se demander si Kinshasa a toujours eu l'intention de mettre fin à cette guerre qui continue à faire souffrir les Congolais, surtout ceux de l'Est. Faut-il encore rappeler que Bunagana n'est pas tombé aujourd'hui, bientôt 3 ans. Quel est ce pays sérieux au monde? Son territoire occupé par des étrangers, comme notre gouvernement ne cesse de le dire, mais doit attendre des déclarations et des sanctions d'autres pays, dont la plupart sont complices, y compris des pourparlers dans les mêmes pays, pour sa libération. Comme c'est l'option choisie par Kinshasa, car conscient de la défaillance de son armée, alors il devait éviter trop de rigueur et d'arrogance dans la manière de faire, comme c'est le cas aujourd'hui au Qatar. Celui qui négocie en position de faiblesse n'est pas trop exigeant, dit-on.
Timothée Chaombo.
Oui, monsieur Amos de Bukavu, Amos Bissimwa, le courageux Amos Bissimwa, il ose parler de Bukavu, il a totalement raison, parce que l'État est faible. Mais à Kinshasa, je veux dire à Doha, au Qatar, le président Tshisekedi, comme le président Kagame, ont été appelés pour que l'émir voit plus clair les fonds qu'il a investis et leur poser la question comment on peut aplanir leur conflit. L'État est faible, parce que nos dirigeants sont faibles, et donc l'arrogance de poser des conditions telles que Kinshasa le fait alors que l'État congolais et les gouvernements, les dirigeants sont en situation en position de faiblesse, Amos Bissim a totalement raison, et donc c'est les rapports de force qui l'emportent. La question que Bissim a posée était une question très importante. Est-ce que Kinshasa voudrait vraiment mettre un terme au conflit qu'il y a au Grand Nord et même dans les Bombondo, dans le Bandundu, Grand Bandundu? Je donne la réponse, je vais tenter de donner la réponse en 2 ou 3 minutes.
En 2 minutes.
Il y a des accords, 2 minutes. Il y a 2 accords secrets entre Kinshasa et Kigali. Il y a des accords secrets entre Kinshasa et Kampala. Je vous donne un tout petit élément en 1 seconde. Savez-vous que pour que Bunagana soit pris par le M23, c'est le gouvernement ougandais qui a cédé son territoire afin que le M23 attaque le FARDC par derrière. Entre-temps, le gouvernement congolais est en accord militaire avec l'Ouganda. Je rappelle cette question tous les jours pour que les auditeurs comprennent la responsabilité de Kinshasa dans les accords secrets dont il a signé avec des États agresseurs et dont il ne veut pas couper, alors qu'on sait que l'Ouganda, le Rwanda, le Kenya sont les bases arrières du M23. Donc, Amos a totalement raison. Un deuxième élément. Le président Tshisekedi va faire un dialogue de type Joseph Kabila, débaucher des gens à gauche, à droite, qui n'ont aucune importance, pas de pignon sur rue, et il laisse des acteurs politiques, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Joseph Kabila, Dr Mukwege, etc., en dehors, pour court-circuiter la démarche des évêques. Je termine parce que vous m'avez donné que 2 minutes. Est-ce que nous n'avons pas une jurisprudence dans la sous-région? Nous en avons une. L'évêque de Centrafrique et l'imam, l'évêque catholique, je vais dire, et l'imam de Centrafrique ont sillonné le monde jusqu'à ce qu'il y ait un accord, parce que les deux évêques, comme le Monseigneur Chollet et ses collègues de CC, sont en train de faire. Le président Tshisekedi emploie les mêmes recettes mortifères sans s'en rendre compte, mais alors que le pays brûle. Et dans un orgueil assez légendaire, on demande cesser le feu. Mais le M23 a conquis par les armes Bukavu, Goma. Et pour votre information, ils sont en train de faire des alliances avec les grands leaders de Beni Boutembo jusqu'à Bunia. Et là-bas, quasiment, il n'y aura pas de combat. Et ces territoires se retrouveront sous le contrôle du M23 FC et alliés. Parce que effectivement, Kinshasa campe dans des positions, alors quand même en réalité, Kinshasa n'est pas en position de force. C'est quelque part, Amos dit, est-ce que Kinshasa a la volonté de résoudre le conflit qu'il y a dans le Kivu? J'ai l'impression que Kinshasa a des agendas cachés et Kinshasa a des accords secrets, dont il refuse de venir à la table de négociation, afin que ceux avec qui il a signé la nuit ne lui oppose ses propres signatures.
Après Bukavu, on va se rendre à Beni pour prendre cet autre auditeur qui nous appelle.
Fabrice Sambili, depuis la ville de Beni, au Nord Kivu. Le report des discussions de Doha entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23 montre que ce lien n'est pas bon pour des négociations justes. Parce que, officiellement, les deux camps parlent des problèmes d'organisation comme prétexte. Mais d'autres sources disent que les deux délégations sont bien arrivées à Doha. Cela montre qu'il y a plutôt un problème d'ordre politique. Et d'ailleurs, la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU demandait à ce que les deux parties puissent revenir aux discussions de Nairobi et celles de Luanda, c'est-à-dire les deux processus. Parce que ces deux processus sont dirigés par des pays africains, à l'instar du Kenya et de l'Angola, et sont soutenus par la communauté internationale. Nous pensons que ces deux processus sont plus adaptés à la situation de la région. Outre cela, le Qatar qui accueille ces négociations, c'est un pays chouchou du Rwanda, avec lequel il entretient les relations économiques. Or, le Rwanda soutient les rebelles du M23. Dans ce cas, nous estimons que le Qatar risquerait de ne pas être neutre dans ces discussions, surtout si les décisions prises dérangeraient ses alliés économiques.
Alors, Maître Achille Kapanga, vous avez suivi la réaction de Fabrice Sambili depuis Beni, au nord Kivu, qui pense qu'il faut plus privilégier le processus de Luanda et Nairobi parce que, voilà, ces deux processus ont le soutien de la communauté internationale et, voilà, c'est plus adapté hein, à la situation de la région.
En fait, avant peut-être de lui répondre, je voulais un peu nuancer quelque chose par rapport au co-débatteur qui venait de parler. Quand il a dit que l'M23 a fait des alliances avec les leaders de Beni, Butembo, de l'Ituri, je pense qu'il faut qu'il vérifie bien cette information-là. Parce que c'est quand même l'un des notables de cette partie de la province. Quand on doit dire qu'on est en train de faire des alliances avec l'M23 pour qu'on puisse conquérir librement.
On a vu une déclaration circuler dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas le débat de ce soir.
Je voulais juste dire que les justes de notables là, je ne peux pas admettre que parole passe. Parce que quand je vois comment mes frères souffrent, ils meurent, et dire qu'ils vont accepter que les égorgères soient avec une alliance, en tout cas là je doute. C'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre avec beaucoup de réserves. Certains individus, comme Thomas Lubanga l'a fait, il a fait sa rébellion, ce n'est pas à dire que tout c'est tout l'Ituri. Comme quelqu'un peut le faire à Beni ou bien à Butembo, ça ne veut pas dire que c'est tout le nord qui vous. Non, vous c'est tout le nord. Là, vraiment, je ne suis pas d'accord avec lui.
Alors,
en fait, madame, moi, je pense qu'il y a un aspect très important. Vous savez, quand nous voulons toujours spéculer à voyager à l'extérieur, moi, je n'ai jamais été d'accord. Vous savez que dans ces pays, il y a des gens qu'on appelle chef de corps. Donc, ils vous touchent les salaires tout en étant à la maison. Les anciens premiers ministres, les anciens, ceci, ils sont là. Ils sont en train de toucher l'argent de ces pays et ils sont calmes chez eux à la maison. Alors que ce sont des têtes qui devaient être exploitées. Parce qu'il y a des gens qui ont servi ces pays, qui ont vraiment des compétences et des capacités. On les appelle chefs de corps, je ne sais pas si le premier ministre après assez ceci. Ils ont vraiment des avantages que vous ne verrez jamais nulle part. Mais ces gens-là, est-ce que vous les avez sentis développer une idée pour aider ces pays? Et de deux. Nous avons un problème de crise de confiance. C'est ça d'abord la grande question que nous avons au sein de la politique de notre pays. Si aujourd'hui, cette crise de confiance prend de la dimension, on n'arrivera nulle part. Vous verrez que l'Église catholique, Saint-Coin et consorts, SEC, ils feront comme s'ils sont déjà en désaccord avec le gouvernement. C'est déjà une crise de confiance qui est entre ces gens-là. Et pour preuve, comme je vous l'ai dit, même la personne qui consultait n'a pas fait allusion à tout ça.
Vous l'avez dit dans votre première intervention.
C'est là où je suis. La crise de confiance, ce que je voulais développer et peut-être à vouloir répondre à l'ami là, la crise de confiance, c'est parmi les aspects qu'il faut que le mal soit profond. Parce que quand vous n'avez plus confiance à l'autre, comment vous allez le croire? Comment vous allez collaborer avec lui? Or, nous voulons que la confiance rentre au sein des acteurs politiques de ces pays pour qu'ils comprennent qu'ils n'ont qu'un seul objectif. Aider le peuple, aider le Congo. Dans leur divergence, dans leur division, ils ne feront rien du tout et le peuple continuera à souffrir.
L'auditeur demande à ce que le gouvernement et le M23 retournent à Luanda et à Nairobi. Il pense que la solution pourrait sortir de là que d'attendre quelque chose du Qatar. Le Qatar qui est allié au Rwanda ne sera pas neutre.
Donc, au Congo, ici, il n'y a pas un cadre idéal où les Congolais peuvent se mettre et parler vraiment des questions, même si on peut parler de Luanda. Bon, c'est peut-être puisque les adversaires sont là. On parle des amis qui sont à Goma, ils ne peuvent pas arriver à Kinshasa et qu'on sort. Il faut peut-être qu'on cherche un cadre d'être. Acceptons qu'on rentre à Luanda. C'est bon. Mais à Luanda, pour faire quoi concrètement?
Mais pour trouver une solution à cette crise, pour mettre fin à la crise,
La crise est due à quoi? Quelle est cette crise-là qui peut faire que les gens fassent des années en train de chercher des solutions, alors que les gens sont là, ils ont juste identifié que nous nous battons autour de ça et ça et ça et ça. Les minéraux, les postes, je ne sais pas, ceci et cela. On met ça sur la table.
Et donc pour vous tous, ces processus, pour la recherche de la paix, ça ne sert à rien.
C'est une perte d'état inutile. Puisque vous voulez soigner quelqu'un qui a peut-être la malaria.
vous commencez avec les antibiotiques, demain vous amenez, je ne sais pas quel médicament, mais il va guérir quand? Identifier la maladie, soigner la personne. Madame, le peuple souffre. Vous allez continuer à négocier jusqu'à quand le peuple est en train de souffrir, le peuple est en train de mourir. Mais mettez-vous d'accord sur les principes. Qu'est-ce que vous voulez? La RDC a dit que non, elle ne fait plus question de voir ces militaires-là peut-être venir intégrer notre armée. Mais loin de là, on a vu les organisations régionales sous-régionales et à ces espaces avec Goma, quand ils doivent signer un accord avec l'M23 pour dire qu'ils vont laisser l'aéroport au M23 pour me contribuer à réparer les dégâts qui ont été commis, qui ont été faits sur l'aéroport. Madame, comment une organisation sous-régionale peut arriver au niveau de signer un accord avec une rébellion? Donc, une organisation qui se dit sous-régionale arrive, ou même régionale, arrive au point de signer un accord avec une rébellion. Est-ce que Kinshasa ne voit pas qu'on est déjà trahi? Est-ce qu'un aéroport international peut être
cédé? Aujourd'hui, c'est eux les maîtres du terrain, là-bas, à Goma, Bukavu, c'est le M23 qui...
Madame, donc, c'est dire que c'est déjà officialisé. Donc, nous sommes en train d'aller à la partition du pays. Donc, elle est en train d'être consommée, à d'autres termes. Il faut alors
donc, là, ça devrait discuter avec le gouvernement congolais pour la réhabilitation de l'aéroport.
Et être avec qui? Comment une organisation sous-régionale peut... Est-ce que l'M23 est membre de cette organisation sous-régionale? Je pense non. Moi, je n'ai pas d'un aéroport international qu'on doit céder. On doit céder un accord pour céder un aéroport international à une rébellion.
Alors, pour vous, on retient que ni Doha, ni processus de Luanda ou Nairobi pourraient trouver des solutions à la crise que traverse la RDC.
Si les acteurs politiques congolais aiment le Congo, qu'ils cessent avec tous ceux qui sont de faire comme tour du monde, qu'ils se mettent ensemble, qu'ils remettent s'ils ont des petits conflits internes, des crises de confiance, mettons ça de côté, disons-nous que ce pays nous appartient, ce pays nous appartient. Si j'étais déjà offensé, pardonne-moi, mettons-nous ensemble, trouvons des solutions à nos problèmes. Puisque Nanga, il réclame qu'on lui remette ses biens. Il y a peut-être tel qui réclame ceci. On va aussi lui dire, c'est bon, tu réclames tes biens, mais tiens les gens. Qu'est-ce que tu dis par rapport à cette tuerie? Parce que ce sont des conditions. On ne peut pas laisser les gens mourir gratuitement comme ça. Et les gens qui se réveillent chaque jour ont dit demain, on va me remettre dans mes droits.
Merci, aussi. Maître Achille Kepanga. On va considérer cela comme votre conclusion. Frédéric Kamani, quelles sont les conditions ou quelles pourraient être les conditions nécessaires pour relancer les négociations dans un délai raisonnable?
Les conditions nécessaires pour relancer les négociations, je pense qu'il faut il faut faire confiance à l'initiative de la CENCO-SCC, ça c'est des M. Il faut aussi faire confiance à l'initiative de la SADC-SCC. Je pense que de ce point de vue-là, les deux initiatives peuvent, avec la volonté politique des acteurs nationaux, ces deux initiatives peuvent conduire à quelque chose de bien pour que la paix et la sécurité reviennent. Au-delà de ça, il faut aussi faire confiance aux acteurs clés. Nous sommes revenus là-dessus. Il y a des acteurs clés dont on ne peut pas se passer. On peut ne pas les dire à haute voix. L'ancien président Kabila, l'acteur, le président de l'ensemble Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Docteur Mukwege et bien d'autres, ce sont Corné Nanga bien entendu, ce sont des acteurs clés qu'on ne peut pas ignorer et l'initiative de la CENCO les intègre pour, n'est-ce pas, avoir la paix. Et surtout, je pense que le moment est venu où les Congolais doivent privilégier l'intérêt général qui passe au-dessus des intérêts partisans et des intérêts égoïstes.
Merci Frédéric Amani. Jackson Kisangani, depuis la ville de Goma, le simple fait que ces discussions aient été repoussées malgré la présence confirmée des deux délégations à Doha est déjà un signal fort. Il y a un blocage stratégique des deux côtés. D'un côté, le M23 pose plusieurs préalables qualifiés de mesures de confiance. De l'autre, le gouvernement exige un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel avec le retrait des rebelles de ville de Goma et Bukavu. Cela démontre que la méfiance entre les deux parties reste totale. Timothée Tchaombo, qu'est-ce que vous, en fait, cet auditeur pense que la méfiance reste totale entre les deux parties. Est-ce que ça ne risque pas de bloquer finalement ces discussions directes que tout le monde attend?
Oui, mais effectivement, cela bloque les discussions et nous allons aller en enlisement du conflit. avec le M23 qui bénéficie du service de renseignement ougandais, qui est en accord avec le gouvernement congolais, et il continue d'avancer, gagner le terrain. Et la solution, de mon point de vue, Madame Kelly, vient de Kinshasa. Le président Tshisekedi est un démocrate qui est né et grandi dans une maison de démocratie, maison d'Étienne Tshisekedi. Il a dirigé ce pays, il a incarné les aspirations de notre peuple. Si aujourd'hui le président Tshisekedi, après avoir pris les conclusions de son conseil spécial qui a mené des consultations, qu'il reçoit les conclusions de la tournée des évêques, qu'il prend les conclusions des églises de réveil, qui se sont réveillées tardivement, qu'il prend les conclusions de Doha, de la commission EAC-SADC, de l'Union européenne et des Nations unies. Et si le président Tshisekedi prend une ordonnance où il nomme, il responsabilise le conseil spécial des Nations unies, je dis le secrétaire général des Nations unies, secrétaire général de l'Union africaine, de convoquer le dialogue intercongolais dans un lieu qu'ils auront décidé pour que de façon inclusive et sans condition, tous les Congolais de toutes les tendances viennent discuter parce qu'il veut sauver son pays, le président Tshisekedi sortira le plus grand. Mais s'il joue les mêmes jeux qu'on a connus avec Mobutu, débauchage, chaque 3 mois un gouvernement, Joseph Kabila débauché de l'UDPS, Badibanga, l'autre, et puis effectivement trois gouvernements, nous n'aboutirons à rien, alors que de l'autre côté, Corneille Nanga et ses alliés sont en train d'avancer et prendre le terrain. À un moment donné, quand deux, trois autres villes tomberont, ils n'exigeront plus que le départ du président Tshisekedi. Et ça ne sera que justice, parce que celui-ci se serait entêté alors que ni son armée, ni lui-même, n'était plus en position de force.
Alors, on va terminer l'émission, mais il y a un auditeur qui vous pose la question, M. Chaumbo Soucha, il s'appelle Sam Oria Chimanga. Est-ce que vous, M. Chaumbo, vous avez des preuves que le président Félix Tshisekedi a signé des accords avec le chouchou M23, et par conséquent, Tshisekedi a peur de participer à un dialogue avec ce fameux M23 au risque qu'il brandisse le fameux accord.
Il y a des accords secrets entre le président Tshisekedi et l'Ouganda. Il y a des accords secrets entre le président Tshisekedi et le M23. La première preuve, c'est que le Claudie Balanqui, qui a été le conseiller spécial, le coordonnateur chargé de suivi des accords de la région des Grands Lacs, à l'issue de l'hébergement de la délégation du M23 entre 2019-2020 à Kinshasa, il y a eu un communiqué où on a amnistié tous les leaders du M23, parce qu'il y a eu de pourparlers avec le premier vice-premier ministre de l'Intérieur. Deuxième accord secret qu'il y a entre Kinshasa et Kampala, cette fois-ci Kampala, c'est que malgré les positions de l'armée ougandaise appuyant ostensiblement le Rwanda et le M23, Kinshasa ne rompt pas ses accords militaires avec l'Ouganda. Troisième épreuve, l'Ouganda a payé 325 millions de dollars que la justice internationale a imposé sous la négociation d'ailleurs de Antipas Moussa Nyamwisi, que cela a été payé. Et cet argent a été payé par l'Ouganda. Il n'y a que 25 millions de dollars qui a été utilisé pour le fonds d'indemnisation des victimes de Kisangani, des affrontements de Kisangani. Posez la question, où est parti le reste des fonds?
Merci.
C'est autour de toutes ces questions ambiguës que nous disons comme experts, et nous venons ici conseiller, qu'il faut se dépasser pour placer la République au-dessus de nos intérêts personnels.
Merci, M. Timothée. Vous vouliez dire un mot très rapidement, vraiment très rapidement.
Un mot, je voulais seulement dire que des Mérons unis, nous pensons que ce pays nous appartient. Dès nous butons partout là-bas, nous devons tous être soudés et éviter que l'ennemi nous pénètre.
Merci. Si vous laissez la place à l'ennemi, nous allons nous tuer. Achille Kiapanga, Dialogue en Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guimaté, Etienne Lissungu et Bertin Kasiama qui ont participé à la préparation et à la présentation de ce magazine. Derrière les caméras, Jonathan Folani, Hervé Voka et Clément Chimanga, Billy Betou étaient à la mise en onde. Présentation et coordination, Kéline Kouté. Bonne suite de programme sur Radio Kati.